Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, Seigneur, ouvre-nous pour qu'on puisse recevoir ta parole qui a été préparée. Amen. J'inviterai Monsieur Monplaisir.
Est-ce que je peux vous dire ce matin que je suis heureux de vous retrouver dans l'état spirituel que j'ai pu constater dans cette première partie, malgré tout ce que nous savons que vous vivons ici, que vous vivez ici à l'Assemblée depuis plusieurs mois. Je peux juste me réjouir de vous trouver dans cet état et je veux en profiter pour féliciter l'attitude des groupes d'anciens, de votre groupe d'anciens ici, à travers tout cela, qu'ils ont eu pour traverser ces événements. D'ailleurs aussi, souligner le travail ardu de vos diacres, de leur discernement, pour avoir pris et posé les bons gestes, d'avoir pris les bonnes décisions concernant le futur de votre assemblée et pour mettre en place ce qu'il fallait pour la bénédiction, et la bénédiction viendra. Et je pense que dans ce que j'ai pu constater ce matin, on peut avoir confiance dans l'avenir qui est là. Ce matin, je voudrais vous parler de la sagesse de Dieu. Je lisais dans le prophète Daniel, et en lisant, j'ai réalisé une chose, que la sagesse était quelque chose que Dieu pouvait donner à un certain moment donné dans la vie de quelqu'un. Comme vous savez que c'est arrivé avec Salomon. Il n'était pas né avec cette sagesse. Ce n'était pas son quotient intellectuel qui l'avait amené à être aussi sage. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment donné dans la vie de ces hommes de Dieu, la sagesse a été accordée comme une grâce spéciale pour des raisons spéciales. Et j'ai réalisé que la sagesse de Dieu est un don conditionnel, que ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit automatiquement, mais il y a des conditions à remplir pour arriver à toucher à cette sagesse de Dieu si précieuse. Et lorsque j'ai envoyé le titre du message à Trevor, celui qui sait évaluer la valeur de la sagesse de Dieu va mettre en place l'énergie et va s'investir afin de la trouver. On ne s'investit pas pour quelque chose qui n'a pas de valeur. On n'a pas de temps à perdre pour quelque chose qui ne nous rapportera pas. Et si on ne s'applique pas à chercher la sagesse de Dieu, c'est qu'elle n'a pas la valeur, à nos yeux, qu'elle a réellement. Alors, on n'y met pas le temps. Alors, on s'investit moins. Et on ne va pas chercher ce qui est si précieux. Et la Bible, à plusieurs égards, nous met en garde contre notre propre sagesse. On est à l'époque où on a une multitude de connaissances. On a des livres qui ont été écrits sur tous les sujets. Et on pourrait facilement, nous comme chrétiens, s'appuyer sur notre propre sagesse ou aller puiser dans la sagesse que le monde nous offre pour gérer nos vies, pour gérer nos ministères, pour gérer nos familles. Et on ne s'investira pas à ce moment-là à chercher véritablement la sagesse de Dieu dans nos décisions, dans nos vies. Et pourtant, elle est là, disponible. Car à l'ombre de la sagesse, on est à l'ombre comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Lorsqu'on vient au monde, Naomi être obligé de rencontrer un psychiatre, pas psychiatre, pédo pour les enfants, là. Pédiatre. Pas psychiatre. Je ne voudrais pas partir sans affaire avec Naomi. Elle va m'en vouloir à vie. Non, bien, ils ont évalué un petit peu les petits garçons à Naomi, puis ils ont fait un test de QI pour savoir sa capacité intellectuelle. Et waouh, il a toute une capacité intellectuelle. Donc, le médecin lui a dit, sois pas inquiète, il comprend extrêmement bien tout ce que tu lui dis. Il est très intelligent, il est au-dessus de la moyenne. On appelle ça un test de quotient intellectuel. Le quotient intellectuel nous donne cette capacité de comprendre, de saisir. Et on est intelligent, on saisit beaucoup de choses parce que notre cerveau, c'est comme un ordinateur là, qui est très, très puissant. Là. Il est plus puissant, il est capable d'évaluer vite, calculer, etc. Je parle avec Guy des fois, on donne des chiffres, et à mesure qu'on les donne, il les calcule, puis à la réponse, on n'a pas besoin de sortir notre crayon. Tu sais, ça va vite. Mais le quotient intellectuel, là, c'est pas la sagesse. Il aurait beau être très élevé. Il y a des gens avec des QI extrêmement forts et qui sont complètement stupides face à Dieu. Parce que le quotient intellectuel ne donne pas la sagesse. La sagesse est un don conditionnel. Dieu va nous donner de la sagesse. Si on remplit les conditions pour y arriver, on a tellement besoin. On a besoin de la sagesse de Dieu dans nos mariages. Hein? Pierre qui nous dit, Marie, montrez de la sagesse dans votre relation avec vos femmes. On a besoin de sagesse avec nos enfants. On a élevé 6 enfants. Les conduire à la maturité sans les briser, sans les laisser non plus aller à tout vent. On a tellement besoin de sagesse. Ils sont tous différents les uns des autres. Et on a besoin que Dieu nous dirige pour les conduire à la maturité. On a besoin de sagesse pour sauvegarder nos relations qui sont souvent si fragiles. Combien de paroles qu'on n'aurait pas dû dire parce qu'on a manqué de sagesse. Combien de choses qu'on n'aurait pas dû faire afin de sauvegarder nos relations les uns avec les autres. On a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse pour exercer nos ministères. On aime le Seigneur. On veut le servir. On veut le faire de façon efficace. Mais combien on a besoin de la sagesse de Dieu? Pas de la sagesse humaine, pas de la sagesse que le monde nous offre, mais de la sagesse qui vient d'en haut. On connaît tous ces versets. Hein? Dieu, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et ça s'est démontré avec les années. On voit, malgré les milliers d'années d'expérience que l'être humain a pu accumuler, combien la sagesse n'est pas arrivé à l'homme. On a écrit sur la famille. Il y a des livres et des livres sur la famille. Et on a une société complètement déchirée concernant la famille. Ils perdent leurs enfants et les couples se séparent. Et on a des outils qui nous arrivent de la sagesse du monde. Et pourtant, tout se brise. La famille, la justice. On ne sait plus comment gérer nos cours de justice. Et les gens de la rue sont capables de réaliser que notre justice, il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans les jugements. Parce que au lieu de se baser sur les Écritures, on raisonne, et on arrive à toutes sortes de résultats qui déçoivent les gens. La justice. On a même perdu l'origine de l'humanité. On ne sait plus d'où on vient. On ne sait plus pourquoi on existe. Et on ne sait plus notre destinée. On a fermé la Bible. On s'est éloigné de la sagesse de Dieu. On a pris notre autosuffisance. On a dit à Dieu, laisse-nous nous occuper de ces choses. Et est-ce qu'on a évolué? On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. Nous, les croyants, devrions être les premiers à connaître la valeur de la sagesse de Dieu et à mettre ce qu'il faut pour aller la recevoir de Dieu. Le principal problème de la sagesse du monde dans 1 Corinthiens 1:21, ça nous dit, c'est que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Voici le principal problème de la sagesse du monde, malgré tous les progrès, supposés progrès que la société nous apporte. Le plus gros problème de sa sagesse, c'est qu'elle n'a pas connu Dieu. L'homme, dans sa toute suffisance, est arrivé à la conclusion que Dieu n'existe pas. Mais la Bible dit, le fou, vous rappelez Alain Chouaquier quand il était venu au Cap? La Bible dit, dans les Proverbes, ça dit l'insensé, elle dit Dieu n'existe pas. Mais Alain Chouaquier dit, le fou dit que Dieu n'existe pas. N'oubliez pas ça. Quel bon temps on avait eu avec M. Chouaquier. La sagesse de ce monde. La sagesse de Dieu embellit la vie présente et la vie future. On cherche souvent la sagesse de Dieu pour arriver à sauver nos âmes, arriver de l'autre côté, peut-être avoir des récompenses. Et on veut bien se conduire pour avoir des récompenses lorsqu'on va arriver de l'autre côté. Mais ce que je voudrais qu'on réalise ce matin, c'est combien la sagesse de Dieu peut embellir nos vies présentes. Combien la sagesse de Dieu peut nous éviter tellement de pièges, tellement de problèmes dans toutes les sphères de notre vie. La sagesse de Dieu est disponible pour embellir et embellir notre vie présente et à venir. Car à l'ombre de la sagesse, on est à l'abri, comme à l'abri de l'argent. Dans Ecclésiaste 2:13, ça dit ceci. J'ai vu que la sagesse a l'avantage sur la folie, comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Dans Job, chapitre 28, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Dans les Proverbes, au chapitre 2 et verset 10, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Lorsqu'on réalise que Dieu veut nous communiquer sa sagesse dans des moments où on en a besoin et on est allé la demander et il nous l'a donnée, et qu'on réalise combien c'est précieux, combien il nous a gardé de tellement de difficultés, ça fait les délices de notre âme. Lorsqu'on approche autour d'une table et qu'on a notre repas préféré qu'on peut prendre tranquillement, ça fait un délice. La Bible nous dit que la sagesse de Dieu, c'est comme ça. C'est tout aussi bon et c'est meilleur même qu'un bon repas. Un roi 5:12, l'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon. Voyez comment la sagesse peut sauvegarder nos relations, les uns avec les autres. C'est cité en lien. Salomon a reçu une sagesse et tout de suite, ça nous dit que ça lui a permis de rester en paix avec Hiram. Parce que Dieu lui a montré qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait faire dans sa relation avec ce roi qui était peut-être pas facile. Salomon a eu paix à cause de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Dans 1 Roi 10:24, tout le monde cherchait à voir Salomon. Pas à cause de son QI, à cause de sa sagesse. Et cette sagesse, il ne l'avait pas eue à la naissance. Il l'avait reçue au moment où il s'est mis à genoux devant Dieu pour implorer, réalisant qu'il n'était pas autosuffisant. C'était certainement un homme très intelligent. On l'avait amené comme roi. Mais il a admis qu'il n'était pas autosuffisant et que pour conduire le peuple de Dieu, il avait besoin d'une sagesse qui venait d'en haut. Et Dieu lui a donné. Et parce qu'il a fait cette demande, et parce qu'il a évalué la valeur de cette sagesse pour en faire la demande, Dieu lui a donné. Il s'en est servi tout au long de sa vie, Et les gens qui l'entouraient admiraient sa sagesse. Et cette reine est partie pour un voyage de plusieurs années pour aller écouter Salomon. Est-ce qu'on n'aimerait pas ça, que les gens écoutent lorsqu'on on veut leur donner des conseils? Est-ce qu'on n'aimerait pas être reconnu pour avoir une sagesse qui nous vient pas de l'être humain, une sagesse qui vient d'en haut? C'est ce qui est arrivé avec Salomon. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'ont craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Vous avez des décisions à prendre. Salomon avait des décisions terribles à prendre. C'est un roi. Les rois, dans ce temps-là, étaient en même temps juges. Ils devaient tout le temps décider, tout le temps trancher. C'est tellement difficile de trancher devant les affaires évidentes, c'est facile. Mais lorsque c'est plus évident et qu'on n'est plus capable de faire la différence entre la moelle et l'os, qui est quasiment de la même couleur, hein, la parole de Dieu comme une épée tranchante qui sépare la moelle de l'os. Salomon était capable de discerner pour porter les bons jugements. Et on aura toujours besoin de ça dans nos vies. Discerner, et c'est ce qui est arrivé avec Salomon. Dans les Actes, au chapitre 7, verset 10, il délivra de toutes ses tribulations et il lui donna de la sagesse. Il lui fit trouver grâce devant Pharaon. De qui on parle? Joseph. Quel homme de Dieu que ce Joseph, qu'on n'entend jamais se plaindre. Avez-vous entendu une plainte de Joseph? Jamais. Un homme qui a été éprouvé? Éprouvé? Difficile de l'être plus que lui. Mais il trouvait grâce partout ce qu'il allait. Parce que même dans son adversité, Dieu lui avait donné la sagesse. Pas l'intelligence, mais la sagesse. Comment se conduire en toute situation? Placé avec ce chef d'armée, en prison, dans la citerne, peu importe. On est allé aux États-Unis avec Jocelyn il y a une couple d'années, et puis c'était l'histoire de Joseph. Et ce personnage a vraiment marqué mon esprit par son attitude. Un homme sage qui savait ne pas se plaindre, accepter la volonté de Dieu et croire que Dieu est toujours là pour me conduire où il veut. Et je l'accepte. Délivré de toute attente à ce qui va arriver dans mon avenir, j'ai décidé que Dieu conduirait ma vie et je vais laisser me diriger. C'est ce que Joseph a fait. C'est par la sagesse qu'on élève une maison, Proverbe 24:3. La famille, c'est tellement important. Et c'est par la sagesse qu'on élève notre maison et qu'on peut l'amener à maturité. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Vous qui êtes jeune, vous voulez faire plaisir à vos parents, conduisez-vous avec sagesse. Parce que la sagesse d'un homme réjouit son père. Et Proverbe 3:13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. La sagesse est un don de Dieu et c'est un don conditionnel. Et c'est un don qui ne nous arrive pas nécessairement avec l'âge. Parce qu'il y a des vieux fous. La sagesse ne nous arrive pas nécessairement avec l'âge. C'est ce que nous dit aussi Job 32. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous aide à discerner. Daniel prit la parole dans Daniel 2:20 et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. » Daniel 2:21, « Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Car l'Éternel, Proverbe 2, 6, donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dans Daniel 1, 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Ces quatre jeunes gens, à un certain moment donné, ont reçu de Dieu la sagesse. Comme Salomon, à un certain moment donné, a reçu la sagesse. Comme un don qui leur est arrivé de Dieu. Mais ils l'ont reçu à condition, à condition de la désirer du fond du cœur. Parce qu'on en a évalué la valeur. Et maintenant, on sait qu'il vaut la peine de mettre l'énergie, de s'investir et d'admettre que je ne suis pas autosuffisant. Et je vais aller chercher auprès de Dieu et je vais implorer Dieu d'aller chercher la sagesse en haut. Hein, Jacques qui nous dit, lorsqu'on est dans l'épreuve, vous manquez de sagesse, demandez-le à Dieu qui donne à tous simplement, sans reproche. Demandez-la. Dieu a dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, je vais te donner la sagesse que tu demandes. » Puisque c'est ça qui est dans ton cœur. Parce que Salomon avait ça dans le cœur. Et pour l'avoir dans le cœur, il avait évalué. Il avait choisi, puis il avait demandé. À la bonne place. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni gloire, ni mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et d'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Il a évalué sur plus important qu'une longue vie, plus que de l'argent, plus que tout ça. Et il a demandé. On peut tourner, si vous voulez, dans le Proverbe, chapitre 2. Proverbe, deuxième chapitre. Mon fils, si tu reçois mes paroles, verset 1, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, oui, si tu élèves la voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches avec soin comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Plusieurs conditions ici sont données dans ce court texte pour arriver à la sagesse de Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles, on est réunis maintenant dans ce bâtiment. On est justement en train de recevoir la parole de Dieu. C'est bien. On reçoit la parole de Dieu. Et c'est une des premières conditions pour arriver à la sagesse. Être à l'endroit où on va pouvoir recevoir la parole de Dieu. Et vous avez fait le bon choix de venir pour écouter ce que la parole de Dieu a à vous dire. Parce que c'est le premier pas pour arriver à la sagesse de Dieu. Mais on peut la recevoir ce matin et partir et arrêter cela. On l'a reçu. Et ce n'est pas suffisant. Le texte continue. Si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est bien de l'avoir reçu ce matin, mais il faudra la garder. On peut accepter de l'entendre, mais est-ce qu'on va la garder dans nos esprits? Est-ce qu'on va la garder dans notre cœur? Si tu gardes avec toi. Ensuite, il dit, si tu rends ton oreille attentive, on est assis dans cette salle, on entend quelqu'un parler. On reçoit. On n'a pas le choix. Si on n'est pas sourd, on entend quelque chose. Mais, est-ce qu'on a l'oreille attentive? Ça, c'est un pas de plus que de la recevoir et de la garder. Mais est-ce qu'on est attentif réellement? Est-ce qu'on va réfléchir? Parce que lorsque je suis attentif, j'écoute et en même temps, je réfléchis à savoir qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut m'apporter vraiment? Parce que je suis attentif. Si j'ai évalué que ça valait quelque chose, si on donnait les conditions, si j'étais en train de vous expliquer les conditions pour aller chercher 50 millions, puis juste 4-5 petites étapes comme ça, vous seriez tout oreille pour écouter ce que je suis en train de vous dire, pour que vous puissiez être certain d'aller chercher le magot. Mais la sagesse de Dieu qui nous dit qu'il est meilleur, on est plus qu'à l'ombre de l'argent, eh bien, on doit avoir l'oreille attentive. Si on a su l'évaluer, si on n'a pas su l'évaluer, on peut l'entendre, on peut même la garder, mais pas d'attention. On n'y réfléchit pas. Il n'y a pas beaucoup de promesses qui sont données à la lecture de la parole de Dieu. Il y a plein de gens qui lisent la Bible et qui sont restés insensés. Il y a plein de gens qui lisent la Bible et qui n'ont pas trouvé même le salut. Parce que l'attention n'est pas là. On a d'autres raisons pour lire la Bible. On lit la Bible parce que papa lit la Bible. On lit la Bible parce que mes amis lisent la Bible. On lit la Bible parce qu'on va à l'école du dimanche et qu'on nous apprend là la Bible. Mais l'attention n'est pas là. Et malheureusement, on a beaucoup de nos enfants qui grandissent dans des familles chrétiennes et qui n'ont pas cette oreille attentive, qui ont l'oreille ailleurs, tout en venant à l'église. Et malheureusement, lorsque l'adolescence arrive, il y a plus de liberté. C'est où on avait l'oreille attentive qu'on se retrouve. Et on se retrouve dans le monde, avec la sagesse de ce monde. Si tu rends ton oreille attentive, et l'autre étape, si tu inclines ton cœur. Ah, on va plus loin ici. Je l'ai reçu, je l'ai gardé. J'ai été attentif, j'ai écouté. Mais mon cœur n'est pas nécessairement là encore. Je peux écouter. Explique-moi ça, c'est quoi? Oui, c'est bien. OK. Mais mon cœur ne se donnera pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Si tu inclines ton cœur, si tu appelles, parce que là, tu es rendu à un point où tu as incliné ton cœur, et là, tu la désires, donc tu l'appelles. Tu l'appelles, tu veux la recevoir et tu veux véritablement la recevoir, donc tu l'appelles. Dans l'évangile de Jean, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus passer, il dit aux disciples qui étaient avec lui, « Voici l'agneau de Dieu. » Et Jésus passait. Et Jésus savait qui était Jean-Baptiste, savait qui étaient ses futurs disciples qui étaient là. Et ça dit que Jésus passait. Jésus ne s'est pas arrêté pour dire, « Écoutez, vous devriez me suivre parce que c'est moi, Jean-Baptiste, ça, c'est de moi que tu parlais. » Il a passé. Jésus passe. La parole de Dieu passe dans vos vies. Elle ne s'imposera pas. Elle ne s'imposera pas. La parole de Dieu passe. Et les disciples, lorsque Jean-Baptiste a dit ça, les disciples sont allés voir Jésus. Et on dit, « Jésus, où demeures-tu? » Parce que quand il est arrivé, Jésus a plutôt demandé, « Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Venez, voyez. » Où elle est la sagesse? Est-ce qu'on va faire comme ses disciples, aller vers Jésus, puis dire, « Où elle est la sagesse pour ma vie? J'en ai besoin. J'élève ma voix. Je la veux, cette sagesse. » Ou plutôt, j'appelle la sagesse. Et l'autre étape après, c'est j'élève la voix. Donc, on peut appeler avec un désir très fait. Seigneur, donne-moi sagesse. mais on voit une autre marche ici. Lorsqu'on élève la voix, on la désire encore plus intensément. Il y a une intensité dans cette recherche de la sagesse de Dieu. On crie, j'en ai vraiment besoin, et on élève la voix. Et je sais que vous avez élevé la voix pour trouver la sagesse dans ce que vous vivez ici depuis plusieurs mois. Et c'est la bonne chose à faire. Si tu élèves la voix, et ensuite, si tu la cherches comme l'argent, on met tellement d'énergie à chercher les biens terrestres. On met tellement d'énergie. Et tous ces biens terrestres-là, rappelons-nous que Salomon n'en a pas été privé, malgré la sagesse que Dieu lui a donnée. On était vraiment bénis. Vous savez qu'on est en, on a eu un projet de on n'a jamais déménagé en 32 ans. On était tout le temps à la même maison. Et je ne pensais jamais déménager non plus de ma vie, sinon de m'en aller dans une maison de retraite à quelque part. Mais le Seigneur a permis, par toutes sortes d'événements, qu'on se trouve une nouvelle maison, que je ne cherchais pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça au dépanneur qui m'a dit une maison. Là, j'étais allé voir ça pour un autre parce que je voulais pas, moi, j'étais pas intéressé. Et finalement, on a acheté la maison. Mais on a été touchés dans ce projet-là, d'une façon. Parce que depuis des années, Guylaine voulait que je m'achète un garage. Puis moi, je me disais, ah, un garage, j'ai pas besoin de ça vraiment, c'est un garage. Puis elle réussissait pas à me convaincre pendant des années. Puis cette année, elle me dit, là, Fernand, je sais que tu n'en veux pas de garage, mais elle savait que ça me ferait plaisir quand même d'en avoir un, mais que je ne voulais pas investir de temps là-dedans, puis tout ça. Elle dit, moi, j'en veux un garage. Fait qu'on va en construire un. Fait que j'ai dit, OK, on va se construire un garage. Et je voulais construire ça sur la maison où je reste présentement, on peut dire. Et finalement, bien, cet événement-là est arrivé. Et le monsieur nous a offert sa maison. Et ça nous a, on n'a pas déboursé un sou. On a vendu la note simplement, puis on a mis ça sur l'autre. Et il y a 5 garages. On a été très occupés avec la villa, avec les responsabilités de l'Église et avec tout ça, avec les enfants. Et on a voulu servir le Seigneur et pendant tout ce temps-là, le Seigneur préparait ces choses-là. Il construisait les choses. Un autre l'a construit pour nous autres. Et on a pu mettre notre temps ailleurs. Salomon n'avait rien perdu. On ne perd rien à chercher la sagesse de Dieu. Quand la sagesse est avec les humbles, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Il donne la sagesse à celui qui lui est agréable. La sagesse est donc accordée à ceux qui la désirent vraiment. Hein? Et il faut croire en sa valeur pour la désirer vraiment. Et je voudrais terminer avec ceci. Je vois que le temps est passé. On peut revenir à la sagesse. Écoutez Jean-Baptiste, la prophétie sur Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On a peut-être été rebelle à la sagesse de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Vous qui êtes plus jeune, peut-être, qui a été élevé dans des familles chrétiennes, qui n'avez pas su peut-être évaluer à sa juste valeur cette sagesse enseignée par vos parents au travers des Écritures, et vous avez manifesté une rébellion dans votre cœur face à cette parole, eh bien, il est possible de revenir parce que Dieu est venu. Jean-Baptiste est venu avec la puissance d'Élie pour ramener les rebelles à la sagesse des justes. Il est toujours possible de revenir à la sagesse. Et pour revenir, il faut d'abord revenir au salut. Comment recevoir de l'Esprit la sagesse d'en haut lorsque l'Esprit n'est pas dans nos cœurs? Et l'Esprit peut venir dans nos cœurs seulement lorsqu'on passe par le salut. Et ce salut nous a été offert par la folie de Dieu. Folie de Dieu. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais la sagesse de Dieu, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et Dieu a choisi de sauver vos âmes en envoyant, comme on l'a entendu au repas du Seigneur ce matin, Christ sur la croix. Donner sa vie pour nous. Livré entre les mains de Satan. Avez-vous réalisé que le salaire du péché, c'est la mort? Et que Jésus aurait pu nous sauver en acceptant juste de mourir? Lorsqu'on tuait les agneaux, est-ce qu'on leur crachait au visage avant de les tuer? Non. Jésus a accepté non seulement la mort, mais il a accepté d'être livré entre les mains du prince de la mort et d'accepter la façon dont il le tuerait. Et avant de le tuer, il l'a humilié. Et Dieu, Jésus, savait ça. Il l'a humilié. Il ne l'a pas égorgé pour ne pas qu'il sente de souffrance. Il l'a cloué sur une croix, dans une longue agonie. Et c'est cette sagesse de Dieu qui a pu sauver nos âmes. Alors, si vous avez été rebelles jusqu'à maintenant à cette sagesse qui vient d'en haut, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, tournez votre cœur vers lui. Parce qu'il pourra non seulement sauver vos âmes, mais vous donner une vie, une vraie vie sur terre, pour votre famille, pour vous-même, pour votre travail, pour votre succès en général, jusque dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'invitation que vous m'avez donnée de venir partager avec vous ces quelques mots. Et j'ai confiance dans l'avenir de votre Église. Je me réjouis des nouvelles qu'on a entendues ce matin. Et continuez votre beau travail. Que le Seigneur vous bénisse. Fais prier. Seigneur Dieu, quelle joie de retrouver mes frères, mes sœurs ici, à travers toutes ces difficultés qu'ils ont pu connaître. Merci, Seigneur, de les trouver dans cet état. Merci de les trouver toujours attachés à toi, avec l'espérance que c'est toi qui gères toutes choses. Malgré tout ce qu'ils ont pu vivre, Seigneur, malgré tout ce qui est arrivé ici, et maintenant, je vois des gens attachés à toi et mon cœur s'en réjouit. Et Seigneur, on est plein d'espérance pour l'avenir. Seigneur, donne-nous cette sagesse. On veut faire comme Salomon. On veut faire comme Joseph. On veut faire comme Daniel. On veut faire comme tous ces hommes de Dieu qui ont embelli leur vie par l'Esprit qui les dirigeait d'en haut. Pour nos familles et pour toutes les sphères de notre vie, on te le demande. Avec intensité, au nom de Jésus. Amen.